jour, de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour une émission spéciale « Science ouverte au Sud ». Retour sur le colloque international qui a rassemblé à Cotonou au Bénin fin octobre des scientifiques engagés sur tout le continent qui œuvrent pour ce qu'on appelle la science ouverte. Une diffusion partagée et équitable de la recherche et des savoirs produits dans les Suds et en Afrique. Et il y a du boulot face aux multiples obstacles auxquels sont confrontés quotidiennement les chercheurs et les chercheuses du continent. Manque criant de moyens, difficultés de circulation, des hommes comme des savoirs, ou encore accès et partage équitable des données collectées. Comment désinvisibiliser tous ces chercheurs et chercheuses d'Afrique? Comment reconnaître leur contribution à la science mondiale? Comment leur permettre de publier dans les revues scientifiques internationales? Comment décoloniser la science en l'ouvrant aussi aux savoirs locaux? Autant de questions soulevées à Cotonou lors de ce colloque international Science ouverte au Sud, le deuxième du genre organisé par l'IRD, le CIRAD et l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, suivi magnéto et micro en main par notre reporter Charlie Dupio, qui va nous faire partager ses échanges fructueux mais aussi les sujets qui fâchent. Regard croisé de chercheurs et chercheuses engagés pour une science réellement ouverte, autour de la question à mettre entre guillemets aujourd'hui, comment décoloniser les sciences. Bienvenue.
Il s'agit d'ouvrir la science au niveau de toutes les connaissances et ouvrir aussi la science aux savoirs locaux, ouvrir la science à la participation de tous, c'est simplement décloisonner la science.
Un chercheur qui ne ouvre pas son savoir à la communauté internationale, je peux dire que ce n'est pas un chercheur parce qu'il doit être médiatisé, il doit donner son savoir à la communauté internationale pour qu'il l'utilise pour le développement ou bien au moins pour la génération future.
On participe à quelque chose, c'est comme apporter une pierre à l'édifice pour que ça puisse avancer et puis d'autres viendront continuer le travail qu'on a commencé. Décoloniser les savoirs, les faire circuler, décentrer et permettre à tout le monde d'exister, d'être dans ce site. Vous voyez un peu, c'est-à-dire l'université comme le site des savoirs. Pour moi, c'est ça la science ouverte.
Bonjour Charlie Dupio.
Bonjour Caroline.
Vous voilà de retour de Cotonou au Bénin. Vous avez suivi pour nous la deuxième édition de ce colloque Science ouverte au Sud qui a rassemblé, on en a entendu quelques-uns, 135 participants de 22 pays, la plupart d'Afrique subsaharienne, pour discuter des avancées mais aussi des obstacles à ce que l'on appelle la science ouverte. Une idée, moi j'ai envie de dire presque un combat collectif, celui d'une science réellement accessible à tous et toutes, au nord comme au sud, d'une recherche libre et partagée. Vous aviez d'ailleurs, Charlie, couvert pour nous la première édition à Dakar de ce colloque Science au Sud, c'était il y a 3 ans. Est-ce que depuis, la science est un peu ouverte au sud, est-ce que ça avance?
Oui, alors ce qui a changé, c'est le fait que la science ouverte a pris des formes encore plus diverses avec, on va en parler, des projets autour des langues africaines, des savoirs locaux, de la parole des anciens. Elle s'est encore plus ouverte, je dirais, en 3 ans. J'ai pu voir une diversité de chercheurs de différentes disciplines, des hydrologues, des chercheurs qui travaillent sur les céréales, les graines du futur, des philosophes, des chercheurs en sciences politiques. Tous essayent de pratiquer la science ouverte à leur échelle. Alors avec quelques réserves, ou en tout cas l'idée d'un cap qu'il faut garder en tête, c'est ce que va nous dire Gilbert Babena. Il est enseignant-chercheur à l'université de Maroua, au Cameroun. Il est aussi le secrétaire général du Grenier des Savoirs. Alors, le Grenier des Savoirs...
Oh, joli nom, hein.
Voilà, c'est très beau. Il a été créé en 2019, juste avant le premier colloque international de l'IRD sur la science ouverte, on en parlait. L'idée, c'est d'accompagner les porteurs de projets de revues scientifiques en Afrique francophone et de les aider à élaborer leurs projets éditoriaux. Et puis, il s'agit aussi d'encourager les chercheurs à publier des articles dans des revues internationales, car la science ouverte ouverte, c'est aussi publier ses recherches dans des revues à destination de la communauté scientifique et puis bien sûr du grand public. Alors au cours du colloque à Cotonou, ce chercheur camerounais Gilbert Babena a souhaité évoquer ce qu'on appelle les injustices cognitives. En fait, c'est tout ce qui peut empêcher les étudiants et les chercheurs de déployer leur potentiel en termes de capacité de recherche. Pour lui, ces injustices expliquent en partie pourquoi la recherche africaine ne contribue qu'à hauteur de 3% à l'ensemble de la recherche mondiale.
Alors, lorsqu'il faut diffuser ailleurs, c'est souvent très, très compliqué parce qu'il y a quelquefois la question du racisme systémique qui a déjà été mis en exergue dans la recherche en général. Ça peut aussi être une question d'institution. Par exemple, si je suis affilié à l'université de Lyon 2, voilà, ça sonne quand même Lyon Lumière 2. On se dit, ah oui, c'est sérieux là-bas. Ça, c'est un exemple. Mais si je dis que je suis d'une université du fin fond du Togo, du Mali, ou alors de la Côte d'Ivoire, une nouvelle université, on se dit, ah, on ne les connaît pas ceux-là. Et tout. C'est très inconscient, mais en réalité, ça se sait. Et de façon inconsciente, ça agit quelquefois même sur l'évaluation.
Quand on parle d'évaluation, là, vous parlez du moment où une revue reçoit un article et accepte de le publier ou non.
Oui, c'est ça. Sauf que la revue n'accepte pas, ne prend pas la décision comme ça. La revue envoie le texte en évaluation aux pairs, aux personnes qui travaillent sur ces questions ou qui sont proches de ces questions. Or, lorsqu'on envoie, par exemple, mon texte, moi, je suis de l'université de Maroua, une université formidable où les gens travaillent beaucoup. On envoie mon texte à un Suisse. Il ne maîtrise pas forcément les questions que j'aborde. Et le racisme systémique aussi, c'est le fait de se dire « j'ai pas utilisé la théorie de tel ». Or, cette théorie ne colle pas à mes faits. Cette théorie est peut-être pensée ailleurs, pas chez moi. C'est à peu près tout ça qu'on va mettre dans le racisme systémique. Et on a également ces problèmes de langue, parce que ce sont des pays où il y a un fort multilinguisme. Or, notre travail, c'est aussi de comprendre ces faiblesses rédactionnelles, là, ces problèmes de langue, et aussi de permettre en réalité aux langues africaines de parler science. Il faudrait que la recherche africaine existe aussi déjà dans les langues africaines. Et les instituts cognitifs sont aussi matériels. La connexion, l'électricité, le salaire, les primes qui ne passent pas. C'est avec tout ça qu'on fait la recherche. Si le chercheur du Nord a l'électricité H24, et que dans le sud, il doit peut-être attendre 22 heures pour être rationné en électricité. Il doit être debout pour pouvoir travailler peut-être rapidement pendant 2 heures. Ça peut être la connexion Internet qui dérange, alors qu'il a besoin de contenu. Parfois, il y a des contenus payants. Ailleurs, les institutions, les bibliothèques prennent des abonnements via les institutions. Nous, on n'a pas déjà des bibliothèques. Ce sont des injustices cognitives. Elles sont matérielles. Et à la fin, le résultat, c'est que vous êtes placé là-haut et moi, je suis en bas. Et on dit, la recherche en Afrique, la contribution de tout le continent, c'est 3%. Mais maintenant, la responsabilité, c'est qui ? Elle est aussi la nôtre. Comment on fait pour relever ce taux ? Je vous ai dit, si on arrive à trouver des moyens pour publier plus d'articles dans les journaux à partir des travaux de mémoire, de thèse, vous voyez, ça augmente en réalité le nombre de publications.
En quoi la science ouverte, c'est une solution à tout ça, en fait ?
Alors, la science ouverte est une solution parce qu'elle nous permet déjà de nous assumer en tant que chercheurs. Avec la science ouverte, j'ai la possibilité de vous parler de quelque chose qui vous est proche, mais différent tout aussi. Si on parle du climat, vous avez l'hiver en Occident. Moi, j'ai la saison des pluies, j'ai la saison sèche. Ça, c'est une réalité conceptuelle qui m'est propre. Vous voyez un peu ? Alors la science ouverte permet cette circularité des savoirs, cette démocratisation des savoirs, mais c'est également un mouvement qui vient contribuer au développement de l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire concrètement ? Moi je suis au Tchad, si je suis chercheur tchadien, certes avec la science ouverte j'aurai accès aux savoirs d'ailleurs, d'Amérique, d'Asie, d'Europe. Ça c'est l'avantage de la science ouverte. Mais il faudrait que le chercheur d'Asie, d'Amérique et d'Europe puissent également avoir accès au savoir que je produis. Il faudrait qu'on puisse proposer des savoirs de qualité. Vous voyez qu'on va décoloniser la perception que l'autre a sur ce savoir. Parce que la colonisation signifie l'imposition ici d'un regard scientifique, d'une façon de faire. Et La décolonisation ici signifie l'acceptation des différents savoirs.
Même si c'est pas gagné, c'est bien dans tous ses sens et surtout entre les Suds que doivent pouvoir circuler les savoirs autour de la question comment décoloniser les sciences. Après avoir été très justement alerté par Gilbert Babena de l'université de Maroua au Cameroun, c'est un autre chercheur du Sud, plus exactement du Nord de l'Afrique, d'Agadir au Maroc très exactement, qui nous explique comment lui-même pratique cette science ouverte, ce partage de savoirs, d'expériences, de la recherche entre les Suds. On écoute tout de suite l'inspirant et inspiré professeur Walid El Asri de la Faculté des sciences d'Agadir.
Moi, je travaille sur le traitement des déchets. Et ce que je fais, c'est qu'on cherche à la transformation des déchets en production de biogaz qui va se convertir en énergie. Pour la science ouverte, donc en août, le staff universitaire était en vacances. Moi, j'étais au Tchad. Et ça, d'une façon volontaire, pour une association qui s'appelle SOS Détresse. Et on était sur 10 camps de réfugiés du Soudan et principalement tchadien, et on a installé, on a transformé les latrines en digesteur qui permet de transformer les excréments humains, les excréments des animaux en produisant de l'énergie. Et ça, c'est de la science ouverte parce qu'on a formé les réfugiés à construire leur propre digesteur. Avec cette installation, elle permet de produire de l'énergie et en plus de ça, ne pas utiliser le charbon, bien utiliser du bois pour la dégradation environnementale. Donc, on a passé de la science qui s'écrit au niveau des articles vers une science applicable, humaine, beaucoup de choses. Le chercheur, il est fait pour aider la société ou aider la planète. Donc, le Maroc m'a formé, moi je veux servir mon pays et je le rends populaire à l'échelle africaine. Le Maroc se positionne bien dans les pays africains. Pourquoi ? Parce que sur 54 pays africains, le Maroc est un des 10 pays qui sont capables de produire plus de 80% de la production africaine. Et le Maroc est un de ces pays. Au niveau national, on peut dire que le Maroc est le premier au niveau du Maghreb. Il produit plus de 9000 publications en 2020. Au niveau de Scopus, la base de données. Actuellement, si on fait une petite comparaison du Maroc, on remarque que notre production, depuis 1989 jusqu'en 2010, la production scientifique a été multipliée fois 7 fois. Ça veut dire que le Maroc a fait un grand effort au niveau de la publication scientifique.
Au Maroc, quelles sont les réticences des chercheurs par rapport à la science ouverte ?
Il y a parfois, on doit payer pour avoir la publication. Ça, c'est un problème. Mais ce que je fais, c'est que je cherche les journaux qui exonèrent les pays en sous-développement ou bien les pays en voie de développement. Et parfois, j'écris à l'éditeur, je vous assure, il y a des journaux qui me disent « Ok, soumets votre article, on va voir. » Dès qu'il trouve l'article très bon, il le prend.
Sans que vous ayez à payer.
Ouais.
Mais ça coûte combien alors de publier dans une grande revue ?
On peut payer 2000 euros pour la publication.
Dans un seul journal ?
Dans un seul journal, oui. Et ça, elle est faite pour les grands laboratoires qui ont des fonds. Pour eux, c'est très facile. On a besoin d'avoir une production scientifique. On a besoin d'avoir du savoir qu'il doit être médiatisé. Et en plus de ça, il doit être vulgarisé et il doit être libre pour la population. Je vous donne un exemple chez nous à la Faculté de sciences d'Agadir. On a ce qu'on appelle une subvention pour la recherche concernant la production. Et ça, ça fait 2 ans. Si vous publiez au moins 3 articles avec un grand impact, à la fin d'année, vous allez avoir une subvention. C'est un prix pour le chercheur.
Donc c'est une compensation financière. Qui est de combien alors ?
Ok, je pense par exemple, si vous publiez par exemple au niveau de Nature ou bien de Science, ce sont les grandes revues, vous avez une subvention qui peut aller vers 2000 euros. Avec mes collègues, ils me disent ça, c'est minimal par rapport, mais je dis au moins nous, on prend quelque chose. Au moins, on a quelque chose par rapport à d'autres.
Qu'est-ce qui ne va pas en termes de sciences ouvertes au Maroc ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ?
Premièrement, on a besoin de formation parce que c'est une nouvelle tendance actuellement avec le numérique, avec ça. Il y a une génération qui a des problèmes avec le numérique. Il y a une autre génération qui dit, nous, on n'a pas besoin de mettre toutes nos données sur un serveur, de faire ça, tata, on a peur de ça au niveau juridique, tata. D'autres choses, ils disent qu'ils vont prendre les données gratuitement, on doit avoir un retour de ça. C'est beaucoup de choses, mais on est obligé de suivre. Il y a un train qui marche. Soit on monte, soit on est dépassé. Je pense que c'est une nécessité. de suivre ça.
La science ouverte, une nécessité pour le professeur Waïd El Asri au Maroc, une nécessité encore plus importante quand on est un jeune chercheur. Comme Apollinaire Kouassi Kouadio. Il est doctorant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Sa thèse porte sur la culture du cacao et plus précisément sur la transition essentielle des planteurs de cacao en Côte d'Ivoire vers le biologique. Un sujet fondamental, transversal et d'actualité. Et pourtant, Apollinaire Kouassi Kouadio doit s'accrocher vraiment à tous les sens du terme pour pouvoir mener à bien ses recherches.
Ça fait déjà 3 ans que je suis inscrit en thèse et on rencontre pas mal de difficultés, c'est sûr. La première difficulté, c'est les moyens financiers, déjà, parce que je n'ai pas de financement pour faire ma thèse. Okay.
Et comment vous faites alors à côté pour gagner un peu d'argent?
Bon, pour gagner un peu d'argent, et on essaie de faire des petites consultances et autres. Et c'est qu'on te recrute pour un petit temps, pour... voilà. Apporter ton expertise sur un problème bien spécifique. Ouais, les autres difficultés, c'est les difficultés sur le terrain à collecter les données. Quand ces données sont un peu, je dirais, confidentielles, entre griffes, quand ça concerne les quantités de cacao produit, les quantités d'argent que les gens ont par année sur la production. La Côte d'Ivoire est un pays qui a axé son développement sur la production du cacao. Et cette production de cacao-là s'est faite au détriment du couvert forestier. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Il y a quasiment plus de forêt en Côte d'Ivoire. On détruit la forêt pour planter du cacao. À chaque année, le planteur, il détruit au moins 1 hectare de forêt et il plante du cacao. Et ce cacao-là, quand il pousse, quand la plantation est jeune, je dirais intervalle à 0 année jusqu'à 15 ans, il produit assez et au-delà, la production chute, ça ne produit plus assez. Et ce même planteur, il détruit encore une parcelle de forêt à côté pour planter encore, et encore, et encore. Et donc, moi, ma thèse, je travaille sur la production innovante de cacao, de sorte à pouvoir faire des plantations durables, de pouvoir produire du cacao sur des jachères. C'est-à-dire, on veut que les planteurs restent sur les espaces déjà cultivés de cacao.
Vous avez mené combien d'entretiens pour le moment ?
Ah, je sais pas, j'ai pas le chiffre en tête, mais j'ai déjà fait au moins 6 localités, plus dans le sud et puis le centre-sud. Dans ces différentes localités, je vois plusieurs planteurs avec qui j'échange. Il y a des bus que j'emprunte et je descends dans le chef-lieu de département maintenant pour rejoindre les petits villages et les petits campements des producteurs. Là, je le fais à moto. Bon, le financement, c'est avec l'apport de mon directeur de thèse. Voilà, qui me finance, qui m'aide à y aller.
Et votre directeur de thèse paye un peu sur ses propres deniers et vos transports.
Oui.
Et alors, quel regard vous portez sur la science ouverte?
Moi, je suis vraiment pour la science ouverte. Parce que je me dis que si, avant moi, il y avait quelqu'un qui a réfléchi science ouverte et avait décidé de mettre à disposition ces données qu'il a galéré à produire, aujourd'hui, je ne referais plus ces mêmes choses. Je m'appuyais directement sur ces données-là et moi, cette galère que je suis en train de vivre là, ce serait déjà quelque chose que quelqu'un aurait déjà fait et aurait mis à ma disposition. J'allais m'appuyer là-dessus et puis continuer. J'allais gagner en temps, en argent, ça allait avancer plus vite que ça.
Si vous aviez quelqu'un qui avait déjà fait la même chose que vous, oui. Fait la même enquête que vous et partagé ces données.
C'est ça. Je suis déjà engagé dans la science ouverte. J'ai déjà réalisé un plan de gestion de données pour ma thèse, que j'ai mis en libre accès déjà, que les gens peuvent consulter, télécharger gratuitement. La condition, c'est de me citer en tant que producteur de la donnée, et c'est tout. Je le mets en ligne pour contribuer de ma manière à l'évolution de la science. Pour moi, la science, c'est un bien commun pour permettre d'apporter des solutions aux difficultés que vivent les populations. Si je finis ma thèse et que je remets ça en libre accès, que qui de trois essaie de s'accaparer et peut... prendre des décisions en fonction de ça, ça peut aider la Côte d'Ivoire à se relancer sur le plan de la cacao. S'il n'y a plus de forêt pour faire le cacao, c'est sûr que la production va chuter et c'est l'économie du pays qui prend un coup. Mais si par mes travaux, on arrive à repenser la production du cacao, aussi c'est le pays tout entier qui gagne. En tant que futur chercheur, pour moi, c'est d'abord dire ce qui est aujourd'hui, ce qui va venir, et j'essaie d'alerter au fait. Un autre chercheur que moi, qu'il soit ivoirien ou pas, pourrait récupérer mes données et puis faire une analyse que moi, je n'ai pas fait, aller plus loin ou avoir un autre regard. Dans tous les sens, ça peut aller.
Dans tous les sens, nous dédions le mot choix musical d'Apollinaire Kouassi Kouadio à tous les jeunes chercheurs et chercheuses talentueux du continent Zouglou VDA. Ah bah oui, c'est ambiance sur RFI.
L'ouvrier mérite son salaire, mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Rien que pour ça, le père c'est qui? Les deux jours sur la pluie et le soleil, je me bats pour que demain soit meilleur. Oh, mais là, là encore, y'en a qui sont jaloux de ça. Oui, oh, là, là encore, y'en a qui sont même pas contents. À l'ingrédé de Toulouse,
d'Abidjan jusqu'à Cotonou, autour de la question comment décoloniser les sciences, suite des entretiens croisés que vous avez réalisés, Charles Dupio, à Cotonou au Bénin, au colloque Sciences ouvertes au Sud, deuxième édition organisée par l'IRT.
Oui, dans ce colloque, ça n'a pas été évident de trouver des interlocutrices. Les femmes étaient peu représentées parmi les participants et les intervenants. Parmi elles, il y avait quand même Cécile Koulibaly, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, université qui a adopté une politique de sciences ouvertes cette année, en 2022. Elle est également coordinatrice de la Bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Vous l'aurez compris, Cécile Koulibaly est très engagée dans des activités de la science ouverte. Depuis 2018, elle a contribué à organiser plusieurs Open Access Week, des semaines en somme consacrées à la science ouverte. Pour elle, la science doit s'ouvrir à tous les savoirs.
Je suis chercheur avec eux en tant que femme, mais je dis que la science ne doit pas être cloisonnée seulement au niveau des chercheurs. Elle doit être ouverte à la participation de tous. Je vois, par exemple, des savoirs locaux que nos parents utilisent.
Qu'est-ce que vous entendez par savoirs locaux?
Les savoirs locaux, pour moi, c'est toutes les connaissances pratiques que, dans un village bien africain de Côte d'Ivoire, on utilise. On peut te dire, pour soigner du paludisme, il faut des feuilletons, il faut ceci. Je peux dire qu'on utilise les feuilles de papaye, les feuilles de nîmes, beaucoup d'autres feuilles des écorces, d'arbres que je ne connais pas, même pas aussi, parce que moi je suis citadine. Quand je parle de paludisme, pour moi, les savoirs locaux, est-ce qu'il n'y a pas une connexion à faire, une synergie à établir entre ces savoirs locaux et la nivaquine aujourd'hui?
La nivaquine, c'est le traitement contre le paludisme.
Contre la malaria, comme on le dit. On l'a prescrit dans tous les hôpitaux en cas de paludisme en Côte d'Ivoire. La nivaquine est un traitement qui a une efficacité avérée. Aujourd'hui, la science ouverte permet d'avoir un œil sur ce que nos parents utilisent dans les villages pour pouvoir soigner un malade. Il y a ce regard de méfiance. Mais je pense que c'est ça aussi la science ouverte. Il ne faut plus avoir que ce regard de méfiance, il faut avoir une autre approche d'analyse, d'application des méthodes de la recherche pour pouvoir tester la qualité, vérifier la scientificité qu'il peut avoir dans ce genre de traitement.
Dans les remèdes locaux.
Les remèdes locaux, voilà. Il ne faut plus regarder les remèdes traditionnels avec un dédain, puisqu'il y a une forte population qui s'y accroche. Aujourd'hui, la science ouverte, il faut capitaliser toutes les sources de savoir.
Et alors vous, comment vous êtes arrivée dans votre parcours à la science ouverte?
Je dirais que c'est tout à fait normal. J'étais documentaliste de la santé pendant plusieurs années. Pour moi, l'accès libre à l'information en santé était capital. Et je formais les gens à utiliser les bases de données en libre accès. Je m'occupe de tout ce qui est accès libre et science ouverte au niveau de mon université.
Et donc, au sein de cette bibliothèque virtuelle, quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
On a numérisé jusqu'à plus de 8000 thèses et mémoires pour pouvoir les mettre en ligne. Au début, il disait que, par exemple, un collègue directeur de la bibliothèque de l'université, Félix Houphouët-Boigny, il disait « j'ai payé cher pour faire ma recherche ». Alors aujourd'hui, me demander de mettre toutes mes publications en libre accès, ce n'est pas possible. Lorsqu'il voit les voyages d'études qu'il a dû souffrir lui-même, sans le concours de son institution ni de son ministère. Il se dit, mais aujourd'hui, je vais publier chez les éditeurs commerciaux. Et je lui disais, mais quand tu publies chez les éditeurs commerciaux, c'est pas mal. Mais tes étudiants vont-ils commander l'article chez les éditeurs commerciaux puisqu'ils n'en ont pas les moyens? Les éditeurs commerciaux, je ne dis pas qu'ils ne font pas bien leur travail. Mais nous, nous sommes en Afrique, nous n'avons pas de budget suffisant pour faire des abonnements. Et lorsque les étudiants ont leur recherche, il est difficile pour eux de commander un certain nombre d'articles qui sont en abonnement. Donc là aussi, ça pose le problème du financement de la recherche. Il faut que véritablement les enseignants-chercheurs, les chercheurs bénéficient de soutien financier pour qu'aujourd'hui on puisse parler de libre accès aux résultats de recherche. Tout ça, c'est très beau. Mais si les chercheurs sont motivés, incités, ils seront ouverts à déposer leurs travaux de recherche.
Il faut mieux rémunérer les chercheurs.
Exactement.
Mais qu'est-ce que vous dites à un chercheur qui vous dit « mais moi j'ai payé pour faire mes recherches, pourquoi est-ce que je mettrais gratuitement en accès libre mes résultats ?»
Je ne fais pas d'effort. J'entre son nom dans le moteur de recherche scientifique et puis je lui affiche ses données qui sont accessibles. Je le fais pour le convaincre de l'accessibilité qu'il doit se donner lui-même pour le bien de la recherche qu'il fait. Il faut que tu sois accessible et visible pour être cité. On n'est pas chercheur pour soi-même. On est chercheur pour que ce que j'ai dit, quelqu'un d'autre aussi puisse me citer. Et allant de nombre de citations en citations, on devient un scientifique vraiment aguerri.
Donc voilà. C'est pour la renommée, mais aussi pour le bien de la science.
Le bien de la science et la renommée également.
Et ça, c'est un argument qui peut faire mouche, de dire « vous allez être cité ».
Exactement. Vous allez être cité, vous allez avoir une renommée. C'est ce que je leur dis.
À défaut d'avoir gagné de l'argent pour vos recherches, vous allez au moins être connu.
Oui, scientifiquement, c'est important d'être connu. Ce qui a été ma satisfaction, c'est de voir certains des chercheurs qu'on a eu à former qui ont eu des bourses pour participer à des conférences internationales. Et il y en a un qui me disait, il n'y a pas longtemps, « Ah, ben j'ai eu une invitation et je me suis demandé c'est où ils ont eu mes références. » J'ai dit, « Mais c'est dans la bibliothèque virtuelle. »
C'est parce qu'il avait mis ses données en accès libre.
Parce que tu es accessible, on sait que tu as travaillé dans tel domaine et il y a une conférence à laquelle on peut t'inviter. On vous invite à des conférences, vous partagez votre connaissance, votre savoir, vous pouvez participer à des projets avec d'autres chercheurs à travers le monde.
Autour de la question sur RFI.
Et on a aussi plusieurs enregistrements audio qu'on peut écouter. Là, il y a un player.
Au moins 5 à 6 langues comme ça. Hein.
Et aussi la traduction par l'étudiant qui a fait l'enregistrement.
Maintenant, il faut peut-être faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir de la nourriture, de l'abreuvage. Et tout ça, c'est vraiment dû au changement climatique.
Explication, oui, ça mérite explication, Charlie Dupiot.
Oui, alors c'est un enregistrement tiré du projet Yanaï, qui veut dire climat en langue haoussa, et en fond, lutte contre la pauvreté. Alors ce projet a été lancé en 2020, on en a parlé à Cotonou fin octobre à l'occasion du colloque Sciences Ouvertes au Sud. Et celle qui mène ce projet au Burkina Faso, c'est Minata Traoré, documentaliste de formation. Elle dirige la bibliothèque centrale de l'université Nasi Boni à Bobo-Dioulasso, et elle coordonne la boutique des sciences de cette université. Minata Traoré défend une science ouverte pragmatique tournée vers les langues africaines et qu'on peut pratiquer avec son téléphone portable.
On a mis en place un projet en recrutant 10 étudiants, dont 5 garçons et 5 filles. On a respecté la parité, qui sont allés dans des villages à l'ouest du Burkina interroger les vieilles personnes, des hommes et des femmes, sur les effets néfastes du changement climatique. Actuellement, avec l'avancée du désert et la déforestation, les gens n'ont plus beaucoup à manger. Les productions sont devenues moindres, les terres sont dégradées. Il faut trouver des méthodes de résilience pour pouvoir survivre. Donc actuellement, on a besoin de leurs conseils en fait. Les conseils des vieilles personnes
Donc c'est aussi voir comment eux cultivaient, peut-être, voilà, quand ils étaient plus jeunes, oui, et s'inspirer de leur méthode.
Cette expérience, effectivement, c'est ça. Ils ont été interrogés en langue locale. Vous savez qu'au Burkina Faso, il y a une diversité de langues. Il y a le Moré, le Djoula, le Bobo, le Fulfulde, le Gurumsi. On les a interrogés et les résultats de cette enquête ont permis de créer une base de données internationale. On peut cliquer dessus et on voit même il y a des photos à l'appui, des images et on les interview, vous pouvez écouter. Et il y a une traduction simultanée de la langue locale au français.
On peut voir ça sur Internet ?
Oui.
Alors là, donc, on est sur votre ordinateur et on peut regarder justement cette base de données que vous avez créée avec ces étudiants. Donc là, ce sont toutes les personnes interviewées dans le cadre de cette recherche.
De cette recherche.
Tous ces résultats-là ont été collectés par vos étudiants.
Nos étudiants et ceux du Mali, du Niger, de la Guinée-Bissau. Il y a Haïti aussi, hein, la Côte d'Ivoire. C'est 10 boutiques des sciences dans notre université de Bobo-Dioulasso.
Mais du coup, ça veut dire que les récits des aînés ont été collectés au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays.
Oui, ça fait 400 récits.
Donc là, on clique sur le témoignage de Dera Moré-Pilga.
Pilga, voilà.
Recueilli par un étudiant de Ouagadougou. Alors là, dans ce qui a été recueilli, on voit des réponses qui sont écrites. On voit par exemple l'occupation principale de cet homme, agriculteur.
Oui.
Et on a aussi plusieurs enregistrements audio qu'on peut écouter. Là, il y a un player. Donc, on entend le récit enregistré de la personne qui témoigne et aussi la traduction par l'étudiant qui a fait l'enregistrement.
Beaucoup de choses ont changé dans ce village. Comme je l'ai dit auparavant, tout près là, si on voulait abreuver nos animaux, si on voulait leur donner à manger, c'était réellement à 2-3 pas. Mais maintenant, il faut peut-être faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir de la nourriture, de l'abreuvage. Ce changement a des conséquences sur nous, sur nos enfants, sur notre bétail, sur presque tout. Voilà, premièrement, tu cultives et tu n'arrives pas à satisfaire tes besoins primaires. Tu ne peux même pas avoir à manger, et ça c'est déjà un problème. Et hormis ça, nous comptions sur nos récoltes pour payer les frais de scolarité de nos enfants. Et comme il ne pleut pas, ça veut dire que ce que nous gagnons se limite seulement à la survivance. Voilà. Nous aussi nous faisons notre possible pour que les enfants ne meurent pas. Donc avec ça, vraiment pour inscrire encore un enfant à l'école, c'est tout un problème. Et tout ça, c'est vraiment dû au changement climatique.
Toutes ces données qui sont là, quelqu'un d'autre peut l'exploiter. Voilà que ça est sur le net. Tout le monde peut s'en emparer, hein, peut-être pour donner d'autres idées sur le changement climatique. Qu'est-ce que c'est que le changement climatique et connaître vraiment la valeur des langues locales au niveau de nos pays africains. Quand on dit science ouverte, toutes les langues sont possibles. Tant que le message peut être transmis, il ne faut pas se limiter seulement à l'anglais ou au français.
C'est la science ouverte à toutes les langues.
La science ouverte à toutes les langues.
En attendant, en espérant ouvrir la science à toutes les langues, il reste encore d'épineuses questions soulevées lors de ce colloque à Cotonou, science ouverte au Sud, notamment autour de la sécurité des chercheurs et de leurs données sensibles en zone de conflit. Comme l'a très justement rappelé Vincent Namrona à votre micro, Charlie Dupuis, lui il est doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur à Nice en France, mais il travaille aussi à Bangui en Centrafrique et sur la science ouverte. Vincent Namrona émet des réserves, de justes réserves qu'il nous fait entendre.
Vous savez, l'enjeu, c'est que quand on ouvre les données, on mène des recherches, on les rend accessibles à tout le monde et à tous les niveaux de la société. Vous savez que dans les pays en conflit, c'est très difficile parce que l'État n'existe pas. Ou du moins, l'État est là, mais il est faible. Il n'est pas capable d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Donc, les données qui sont rendues accessibles à tout le monde, parfois, on les utilise contre les intérêts de l'État, contre l'intérêt des citoyens. Je ne vous citerai pas de pays, mais je vous donne un exemple précis. Dans un pays, il y a une ONG internationale qui s'occupe des éléphants. Donc cette ONG a pu installer des cartes à puces dans le corps des éléphants. Cette carapuce permet donc à cette ONG de suivre tous les déplacements de ces éléphants-là. Et pendant les conflits, les groupes armés ont pu mettre la main sur les données. Et donc, ces données-là ont permis aux groupes armés donc de traquer les éléphants et donc de les braconner, de les exterminer. Les éléphants, ce sont des espèces qui sont protégées. C'est un article, enfin plusieurs articles, qui ont été écrits et publiés, donc à accès libre. La cartographie, la population des éléphants, leur déplacement, etc., comment ils se déplacent, ces données-là ont été rendues publiques. C'est du pain béni pour les groupes armés.
En quoi c'est une limite aussi de la science ouverte de rendre accessibles des données qui peuvent être utilisées par des personnes qui ont des mauvaises intentions?
Je ne parlerai pas de limite, mais je parlerai du revers de la science ouverte. C'est le revers de la médaille. C'est le mauvais côté. C'est-à-dire qu'il y a des données, avant de les rendre accessibles à tous, il faut réfléchir par mille fois. Il y en a qui sont sensibles.
Mais par exemple, ce qui concerne les éléphants, on pourrait se dire que c'est dans l'intérêt de la recherche aussi que ces données soient publiques.
Oui, mais vous comprenez clairement que ces données qui concernent les éléphants ont été rendues publiques. Elles ont été mal utilisées contre les éléphants. C'est ça la difficulté. Ce qu'il faut retenir dans la science ouverte, c'est qu'on rend les données accessibles autant que possible. On les verrouille autant que nécessaire. La Centrafrique, c'est un pays en conflit. La RDC, c'est un pays en conflit. Le Mali, c'est un pays en conflit, etc., etc. Donc, ces pays-là, le contexte sécuritaire, le contexte politique et sécuritaire, il est assez particulier. Donc, il faudrait que les chercheurs fassent extrêmement attention aux données qu'ils vont rendre accessibles à tout le monde et à tous les étages de la société. Vous savez que les ressources minières sont au cœur de beaucoup de conflits en Afrique, notamment dans les pays francophones, au sud du Sahara. Les données qui concernent la localisation des ressources, si vous voulez, le diamant, l'or, la faune, la flore, les espèces rares qui sont protégées. Il y a beaucoup de recherches qui ont été menées et les résultats ont été publiés dans le respect des règles de fonctionnement de la science ouverte. Et donc, ça a permis donc à certains groupes armés de savoir où se trouve exactement le bois recherché sur le marché international. Et donc, se sont livrés à un trafic illicite. C'est la même chose pour la localisation des mines d'or et des mines de diamants qu'ils exploitent. Et les revenus générés par le trafic illicite de ces ressources minières-là sont malheureusement utilisés par les groupes armés pour se réapprovisionner en armes et en munitions pour entretenir le conflit en un seul mot. En un mot. Je ne vais pas dire que toutes les mines d'or qui sont exploitées aujourd'hui le sont grâce aux résultats des recherches. Mais il y en a d'autres, par contre, qui le sont grâce aux résultats de la science ouverte. Les exemples sont légion. Donc, vous savez, parmi les personnes mal intentionnées, il y en a qui ont fait des études poussées. Il y a des têtes pensantes. Donc, ils sont capables de décrypter les articles scientifiques et de les exploiter à leur profit. Et moi, j'invite les chercheurs à faire attention, en fait. Je ne les invite pas à fermer les données, à les cacher. Non, ce serait aller à l'encontre du mouvement science ouverte. Je les encourage à continuer à rendre accessibles les données. Mais avant de le faire, il faudrait qu'ils fassent très attention, surtout lorsqu'on évolue, lorsqu'on travaille dans les zones en conflit. Par exemple, le rendre accessible seulement aux chercheurs. On verrouille par un mot de passe, etc. Et donc, avant de rendre accessible une donnée, il faut réfléchir par mille fois. On est en conflit. Si on est dans un contexte de conflit, il faut faire attention à ce qu'on rend public.
À qui la force, à qui la raison, à qui la force, mais qui allons-nous accuser?
Y a fini, chante de Dieu.
À qui la force, à qui la raison, à qui la force, mais qui allons-nous accuser?
Cédric Wangé, DDC de Boda.
Beneti Koroso, on a mouti mini la meki de ma. Benemi, on a mouti mini la meki de ma. Tu es en bas, de bas en haut. Tu as pour un parti, tire sous sa vérité, dis-le. A qui la faute? A qui la raison, maman?
A qui la faute? A qui la raison? A qui la faute? Qui allons-nous accuser?
Yange la cadasse.
Sont africains qui prennent des records, rotons à la matilo.
ma pati ya diamant, ma pati lolo, muna babo oh, benere kaka dingunda, swake kana ngeza na sanzu kuti leta, me pua pua, trop d'arrière de salaire, a fonctionnaire qui va passer. Papa souli a dengo, tata a retraité, so a batangé za tsala, tango na la chapé, a baba ki pina de voti trésor, yeti ma wa yo yo, pali kouzi mamelou,
a ki la faute.
À qui la faute, le choix musical Quartier Libre de Vincent Namrona, chercheur en sciences de l'information entre Bangui en République centrafricaine et l'Université de Côte d'Azur à Nice. Autour de la question comment décoloniser la science, suite et fin de cette série d'entretiens que vous avez réalisé à Cotonou, au Bénin, lors du colloque hier des sciences ouvertes au Sud, Charlie Dupiot et pas Charlie Dupuis, hein, je me rattrape comme je peux. Qui dit sciences ouvertes dit évidemment Charlie, recherche et résultats partagés entre Sud et Nord, autour du changement climatique, bien sûr, et de ses conséquences qui touchent particulièrement les pays du Sud.
Oui, d'où l'idée d'un observatoire qui s'appelle Amakatch, qui suit depuis 30 ans l'évolution des ressources en eau dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, le Niger, le Sénégal, avant c'était le Mali, et le Bénin. Alors pour en parler, j'ai rencontré Sylvie Gall, hydrologue à l'IRD basée à Grenoble. Elle a aussi vécu au Bénin. Sur son ordinateur, elle nous montre la base de données de cet observatoire sur les ressources en eau en Afrique de l'Ouest.
On peut voir sur une carte l'ensemble des mesures qui sont faites. On peut zoomer sur des zones. Donc là, ici, c'est le Bénin. Comme on est au Bénin, je vais zoomer sur la zone béninoise. Donc ici, on va voir tout ce qui se passe, toutes les mesures qui sont faites sur la zone qui s'appelle l'Ouémé supérieur, c'est-à-dire le plus haut du bassin du fleuve Ouémé, qui est le fleuve principal du Bénin, sur une surface de 14 000 km², 100 par 100 km. Chaque type de mesure a un petit symbole qui est différent. On voit ici les petits triangles, c'est les pluviographes.
Les pluviographes, ce sont les outils de mesure de la pluviométrie ?
Exactement, c'est les appareils qui mesurent la pluviométrie. Mais on a également d'autres types de mesures, notamment des suivis de hauteur de nappe et des mesures d'infiltration d'eau dans le sol. Au milieu, on a la carte où on voit toutes les données. Et puis sur la droite, on voit des outils qui permettent de rechercher. Alors tout est en anglais. Est-ce qu'on veut chercher des mesures qui concernent l'eau souterraine, la météo, les précipitations? Et puis si on se dit, bon, en fait, moi, je veux en fait savoir tout ce qu'il y a. On peut aussi préciser la date qui nous intéresse. Par exemple, si c'est un étudiant qui a une période d'études précise, ben voilà, il la met ici. Et là, on fait rechercher les jeux de données.
Et alors, le jeu de données, à quoi ça ressemble?
Alors, un jeu de données, ça revient à un fichier. On voit ici un petit logo qui marque que vous devez être connecté pour télécharger la donnée. Ça veut dire que nous, notre politique de science ouverte, c'est que toutes ces informations générales pour découvrir les jeux de données, elles sont libres et en accès sans limitation. Si on veut télécharger les données, il faut s'identifier.
Donc, ça veut dire qu'il suffit de se connecter, de créer un compte pour accéder aux données.
Voilà, tout à fait.
Mais ça veut dire que si je suis une chercheuse qui travaille sur la question des ressources en eau au Bénin, oui, je peux trouver ces données sur Internet et utiliser ça pour ma recherche.
Tout à fait. Nous, on a une ouverture pratiquement totale. La seule chose qu'on demande, c'est qu'on nous cite.
En quoi, pour vous, c'est important au niveau de cet observatoire qui donc analyse la pluviométrie et les ressources en eau dans différents pays, dont le Bénin? En quoi c'est important de participer à la science ouverte et de dévoiler ces données-là?
On pense que, en fait, si on veut vraiment comprendre le cycle de l'eau, maintenant c'est fini la période où c'était discipline par discipline. Donc plus il y a des chercheurs de différentes disciplines et éventuellement d'autres pays ou d'autres laboratoires qu'on ne connaîtrait pas tout le temps, déjà maintenant, qui veulent s'y intéresser, ça peut nous faire progresser. C'est pour ça aussi qu'on aime avoir leurs adresses e-mail pour pouvoir les contacter, éventuellement démarrer des collaborations.
Des gens qui téléchargeaient vos données et vous vous êtes dit que c'était bien de créer un pont avec eux.
Donc ça, c'est des intérêts scientifiques. Par exemple, il y a eu des études qui ont été faites. En l'occurrence, c'était pour estimer si le changement climatique risquait de faire augmenter ou diminuer les hauteurs de nappes phréatiques. Et ils ont utilisé ces données-là, parmi d'autres. Hein. Et donc le fait qu'elles soient ouvertes, ce n'est pas les seules données. Mais comme elles sont ouvertes, elles sont beaucoup utilisées.
Et en quoi c'est important sur une thématique qui est celle de l'eau, à l'aune du réchauffement climatique.
Tous les ans, on bat des records de chaleur. Bon, ça, c'est un peu connu. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres choses qui changent dans le cycle de l'eau. Le rythme des inondations augmente énormément. Et donc, tout ça, je pense qu'il faut que cette donnée soit partagée pour que la science soit la plus exacte possible. Mais plus on sera nombreux, plus on sera efficace, parce qu'il y a vraiment du travail à faire et il y a beaucoup de pistes. Et plus on sera nombreux, mieux ce sera. On croise encore des chercheurs africains qui manquent de données et qui donc qui travaillent sur des données qui s'arrêtent en 2000, qui sont des données de 1950 à 2000, par exemple. Et donc, en fait, la progression et les modifications du climat qui existent actuellement, ils ne les ont pas du tout dans leurs données. C'est quelque chose qui me chagrine et j'aimerais qu'au moins tous les chercheurs africains qui sont sur les territoires sur lesquels on intervient puissent avoir accès à ces données.
Sylvie Gall y travaille, en tout cas à l'IRD, alors du nord vers le sud, mais on l'a entendu, on l'a compris, Charlie, la science ouverte, c'est aussi un dialogue sud-nord et c'est aussi un dialogue sud-sud, avec l'envie toujours de décentrer le savoir, ou plutôt les différents savoirs. Comment s'est conclu ce colloque science ouverte au sud, qui s'est tenu fin octobre à Cotonou, Charlie, quelle piste, au fond, à ouvrir en fait, encore, pour l'avenir?
Alors, ce qui ressort de ce colloque, c'est déjà un constat, il y a une absence de politique de science ouverte en Afrique francophone. La science ouverte est un peu plus développée dans les pays anglophones, mais en Afrique francophone, le partage des données de recherche est encore embryonnaire pour toutes les raisons qu'on a entendues là dans la voix des chercheurs. On a encore la peur de voir ces données pillées et puis il y a aussi un manque d'informations sur tous les outils de la science ouverte et ça n'a pas beaucoup changé depuis 2019 quand j'avais couvert le premier colloque international de l'IRD consacré à cette question de la science ouverte. Alors les objectifs qui ont été fixés après ce nouveau colloque, c'est de continuer le travail de plaidoyer pour la science ouverte auprès des chercheurs, de renforcer la formation sur le sujet. Et puis, parmi les autres résolutions, c'est de mettre en place un outil de suivi de la science ouverte en Afrique. Et puis aussi, notamment, de favoriser le multilinguisme pour faire en sorte que cette science s'ouvre encore un peu plus, on le disait, au sud et au nord.
On soutient en tout cas le multilinguisme et c'est le meilleur qu'on puisse nous souhaiter, cette science ouverte à tous, hein, que ce soit au nord ou au sud. Un grand merci, Charlie Dupiau, à vous et à tous les intervenants et intervenantes de ce colloque Science ouverte au sud que l'on salue et que vous saluerez de notre part. Espérons que vous couvrirez aussi le prochain. Tiens donc, sera-t-il aussi fructueux? Est-ce qu'il y aura un prochain, Charlie Dupiau?
Alors, normalement, je crois que c'est prévu en 2024, donc dans 2 ans, et peut-être en Afrique du Sud, à Cape Town. Voilà, on verra. Si
on ira ensemble, vous êtes d'accord?
Avec plaisir.
À bientôt, merci beaucoup. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Autour de la question, quelle science à l'œuvre à Notre-Dame? Et oui, pour la restauration de la cathédrale, on vous promet un voyage dans le temps et dans l'espace, au cœur de toutes les matières, même sonores, et de tous les métiers sur le chantier de Notre-Dame. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, où que vous soyez sur la planète. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.